l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous partons en Inde, et plus précisément à Kolkata. Le 9 août dernier, les parents de Mumita, infirmière travaillant à l'hôpital de Kolkata, reçoivent un appel de la direction. Elle leur annonce que leur fille est soudainement malade et qu'il leur faut se rendre sur place le plus vite possible. À leur arrivée, stupeur, on leur apprend la mort de l'infirmière qui se serait suicidée durant la nuit, au cours de son service. Les parents doivent insister et patienter de longues heures pour être autorisés à voir la dépouille de leur fille. Ils découvrent le corps profondément marqué et ensanglanté. La thèse du suicide ne semble pas tenir. C'est pourtant celle qui est défendue par la direction de l'hôpital et par la police. La famille est pressurisée pour procéder rapidement à l'incinération du corps. On lui propose même une compensation financière pour qu'elle enterre l'affaire et ne cherche pas à découvrir les véritables raisons du décès. Résolus à ne pas se laisser faire, les parents font éclater l'affaire en accusant la police de vouloir dissimuler un viol collectif. Sous leur pression, une enquête est ouverte. Dans les jours qui suivent, le rapport fuite. La communauté médicale découvre la gravité des blessures infligées à Mumita. Nombre de médecins attestent l'impossibilité d'un suicide et s'insurgent. Aussitôt, tant les réseaux féministes que les réseaux de lutte du corps soignant montent au créneau et questionnent. Comment se fait-il que malgré les preuves évidentes, la direction de l'hôpital comme la police ait cherché à dissimuler un tel crime? Finalement, l'autopsie conclut à un viol et un suspect est arrêté. Un seul, alors que tout, y compris les détails les plus sordides, laisse penser qu'il ne peut s'agir que d'un viol collectif. Le sentiment que l'on cherche à protéger des gens est latent. Or, la non-prise en charge des féminicides et des violences faites aux femmes est un problème récurrent chez la police indienne. Bien souvent, les féminicides sont classés comme suicides, les plaintes pour viol ou violence ne sont pas acceptées, ou tellement déconsidérées que l'affaire est enterrée sans même avoir été traitée. Le chef de la police de Kolkata se défend d'avoir voulu protéger qui que ce soit, mais face aux premières réactions, l'enquête lui est néanmoins retirée au profit de la police fédérale. Sur les réseaux d'abord, les témoignages de femmes se multiplient. Alors que les femmes composent 60% du corps médical indien, les employés des hôpitaux racontent leurs conditions de travail délétères et les dangers auxquels elles s'exposent. L'absence de locaux privatifs ou non mixtes, les nuits à rallonge durant lesquelles elles ne peuvent se permettre de fermer l'œil. Mumita a été agressée alors qu'elle se reposait dans l'amphithéâtre de l'hôpital après une garde de 36 heures. Doctoresse et infirmière réclament donc des horaires décents et des espaces privés pour pouvoir se reposer en quiétude et en sécurité. La docteure Madhupanandi déclare ainsi à la BBC.
L'hôpital n'a pas de toilettes ou de salle de repos réservées aux femmes. Moi j'utilise les toilettes des patients et quand je travaille tard, je dors parfois sur un lit sur roulette dans le couloir. L'hôpital a toujours été notre maison principale, nous ne rentrons chez nous que pour nous reposer. Nous n'imaginions pas qu'il pouvait être insécure. Après ce crime, nous sommes terrifiés.
D'autre part, des femmes de toutes conditions dénoncent les difficultés à porter plainte pour viol. Elles expliquent être découragées par les policiers lorsqu'elles se rendent au commissariat, blâmées pour leur tenue ou pour l'heure à laquelle elles étaient dans la rue sans être accompagnées d'un homme de la famille, souvent ignorées et refoulées du commissariat sans même que leur plainte n'ait été prise en compte. La justice est également mise en cause. Même lorsque la police transmet la plainte, moins de 25% des accusés de viol sont condamnés, un chiffre en baisse constante au XXIe siècle. Très vite, c'est dans la rue que la colère s'exprime. Les rassemblements attirent d'abord le personnel soignant, puis d'autres corps de métier se joignent à la colère. Avocates et profs en premier lieu. Tous les soirs, on se réunit sous les fenêtres du directeur de l'hôpital, qui démissionne très vite. Il est muté dans un prestigieux collège médical à l'autre bout du pays. L'institution est aussitôt bloquée par les étudiantes qui refusent d'accueillir l'homme qui a tenté de dissimuler le viol et le meurtre de Mumita. Partout dans le pays, les lieux de soins deviennent des espaces d'information pour dévoiler les situations vécues par les femmes. Des piquets de grève sont tenus pour exiger justice. On peut lire sur des banderoles et des pancartes « Hands that heal shouldn't bleed », les mains qui guérissent ne devraient pas saigner.
Oui, a great game means diversity in the face, you just started a war. Simplicity all the way as I add to the score. And while they're feeding for my downfall, I'm eating out and ask where I came outside, I conquer, let the next.
L'Inde est un pays particulièrement en difficulté sur la question des violences faites aux femmes. Selon un classement Reuters de 2018, le pays le plus peuplé au monde est aussi le pays le plus dangereux pour les femmes. Il arrive en tête notamment des critères portant sur l'exploitation humaine, les violences sexuelles et l'oppression culturelle. La situation semble même s'être empirée puisqu'en 2011, le pays n'était qu'à la quatrième place de ce même classement. Les statistiques officielles, qui excluent le viol conjugal, dénombrent 90 viols par jour, soit près de 33 000 par an pour une population d'1,4 milliard de personnes. Dans les jours qui suivent le drame, des marches se tiennent dans les grandes villes du pays. Les praticiennes et praticiens des hôpitaux publics de plusieurs états annoncent interrompre tous les soins non urgents pour une durée indéterminée. À Kolkata, les femmes travaillant à l'hôpital affirment qu'elles ne retourneront pas dans son enceinte tant que leur sécurité ne sera pas assurée. Dhruv Chauhan, du réseau des jeunes médecins de l'Association médicale indienne, déclare à l'agence Press Trust of India
« Les médecins du pays se demandent ce qu'il y a de si difficile à promulguer une loi pour notre sécurité. » La grève se poursuivra jusqu'à ce que toutes les demandes soient officiellement satisfaites.
La colère qui monte n'est pas sans rappeler le mouvement pour Jyoti Singh. Le 16 décembre 2012, une étudiante en kinésithérapie est violée et torturée par 6 hommes dans un bus de New Delhi. Jyoti Singh décède de ses blessures 13 jours plus tard, non sans avoir pu raconter ce qu'il s'était passé à la presse et à la police. Fortement médiatisé, le crime et le puissant mouvement de révolte des femmes qui en découle a un effet électrisant. Les rues indiennes sont noires de monde plusieurs semaines durant, tandis que la police attaque les cortèges à coups de bâton et de canons à eau.
According to the latest government figures, one woman is now raped in India every 20 minutes.
La révolte obtient que le viol soit plus fortement criminalisé et que les peines de prison pour les agresseurs soient relevées. La peine de mort est même instituée pour les violeurs récidivistes et les meurtriers de Jyoti Singh sont finalement pendus en 2020. Une nouvelle loi permet en outre de condamner à la prison un policier qui aurait refusé d'enregistrer une plainte. Or, malgré les campagnes de sensibilisation dans les cinémas, les radios, à la télé, les mentalités ne changent pas rapidement et la loi peine à être appliquée. Preuve en est, le film India's Daughter de Leslie Hoodwin, produit par la BBC et qui rend hommage à Jyoti Singh, devait être diffusé le 8 mars 2015 en Inde. Hélas, il est interdit par le Premier ministre Narendra Modi, et même YouTube refuse de le diffuser dans le pays. Mais tout de même, le déferlement de 2012 témoigne de la colère ressentie par un nombre croissant de personnes envers l'oppression de genre. Les Red Brigade, association née un an plus tôt dans les bidonvilles de Lucknow, dans l'Uttar Pradesh, sont ainsi au premier plan de la lutte. Née avec l'objectif de développer l'autodéfense physique et morale des femmes, l'organisation grandit et devient pionnière en matière d'accompagnement des victimes, d'autosuffisance économique, d'éducation et de sensibilisation, y compris auprès d'hommes auteurs de violences. Partie d'un noyau de 15 personnes, les Brigades Rouges revendiquent 10 ans plus tard 8000 membres. Usha Vishwakarma, la fondatrice, explique.
Avec ce projet, nous voulons convaincre les femmes qu'elles ne sont pas faibles, qu'elles ont de la force en elles. Le truc, c'est justement de révéler cette puissance cachée. Toutes les femmes doivent pouvoir s'opposer à la violence et toutes les femmes doivent pouvoir poursuivre leurs rêves. Je veux souligner que les garçons jouent un rôle important dans notre programme d'entraînement et d'émancipation des femmes. Il est vital que les hommes s'engagent, qu'ils remplissent ce rôle. Je me sens bien quand je vois un sourire sur le visage d'une femme, quand je la vois sans peur et pleine de force.
Les Red Brigade sont particulièrement actives à travers l'organisation d'ateliers de Krav Maga ou d'arts martiaux auprès des femmes dès l'âge de 6 ans et revendiquent avoir formé 157 000 femmes en une décennie. Ce travail colossal symbolise aussi les initiatives multiples qui naissent depuis les années 2010 pour empuissancer les femmes indiennes dans tous les domaines. L'autre grand mouvement populaire qui a mis en avant la lutte féministe est celui du monde paysan entre 2020 et 2022. Luttant contre une réforme néolibérale lancée par Narendra Modi, la paysannerie indienne défend durant 2 ans son existence face à l'agro-industrie en bloquant le pays. Or, 80% de la nourriture indienne est désormais produite par les femmes. C'est dire si leur participation à ce mouvement a été déterminante pour arracher la victoire, après plus d'un an d'occupation du périphérique de la capitale New Delhi. Les femmes paysannes se sont fédérées en assemblée et ont travaillé ensemble à forger des outils solidaires dans la lutte et dans les champs. Désormais, même si les situations sont profondément distinctes entre les différentes provinces du pays, leur leadership grandit dans les organisations paysannes et certaines réclament de vive voix le droit à la terre et la reconnaissance du statut d'agricultrice.
Leave exes like he's after my treasure, but I hit him with a maybe not, maybe never. Give an inch and they take the world. God complex, I don't know how to measure. Do you know what it took for girls to get where we are? Don't tell me about pressure. My pot belly and my big thighs and my Persian hips. Yeah, it feels nice. Pure London with them East vibes. My mind's buff and I know my rights. Give me stretch marks and some cellulite. No makeup.
Dans la décennie, violences, viols, meurtres de femmes se poursuivent. Difficile de voir la moindre amélioration. Le victim blaming est systématique. Régulièrement, pourtant, des marches et des émeutes éclatent après les drames. New Delhi en 2013, Kolkata en 2014 ou encore en 2018 à deux reprises. Mais si rien n'a véritablement changé, c'est selon les mots de la mère de Joy Tissing que l'on n'a pas assez compris et pris en compte le caractère systémique des violences et de l'oppression des femmes. Des traditions ancrées dans la pratique font en effet des indiennes des êtres assujettis aux hommes de leur entourage. Le mariage forcé, imposé parfois à des femmes très jeunes, est l'une des oppressions culturelles les plus communes et admises dans le pays. Plus d'une femme sur quatre est ainsi mariée avant sa majorité. Par extension, la dot est également cause de violence. Lorsqu'une femme se marie, ses parents doivent payer une certaine somme à la belle famille. En cas de dot trop faible, la mariée subit potentiellement la violence de son mari ou de ses beaux-parents. 30 à 40 femmes par heure seraient victimes de violences au sein de leur couple, selon des décomptes officiels probablement en dessous de la réalité. En 2020, 7000 femmes auraient été tuées et 1500 autres se seraient suicidées pour des affaires de dot. Cette pratique mène d'ailleurs à une déconsidération des femmes avant même leur naissance. Les avortements sont largement majoritaires lorsque les fœtus sont féminins. Et certaines publicités encouragent même les femmes attendant une fille à avorter pour ne pas avoir à payer une dot 20 ans plus tard. C'est dans ce contexte que sévit le patrilocal trap, ou piège patrilocal. Les femmes célibataires sont empêchées par leur famille de travailler à l'extérieur du foyer ou de sortir entre amis, parce qu'elles seraient amenées à rencontrer et à côtoyer des hommes sans que leur père ou leur frère ne puissent surveiller la situation. Nombreuses sont celles qui sont contraintes au mariage pour quitter l'emprise familiale, pour se retrouver aussitôt sous une nouvelle emprise, parfois plus violente encore. En 2022, selon Frontline, 4,5 millions de crimes contre les femmes ont été enregistrés, un tiers étant des actes de cruauté commis par des maris ou des proches. La culture de l'impunité est massive. Chercheuse au Centre Tricontinental, Aurélie Leroy déclare dans un article daté de juin 2024
« Les corps des femmes, en particulier celles qui appartiennent à des communautés marginalisées, sont la cible d'un continuum de violence, du ventre à la tombe, qui contribue à la perpétuation de la domination masculine et au maintien des hiérarchies fondées sur la caste, la religion, la classe sociale, la parenté, etc. Les institutions façonnées par l'État concourent à la reproduction d'un ordre symbolique et social. On pourrait s'attendre à ce qu'elles participent de la solution, mais elles perpétuent souvent, au contraire, des formes de violence contre les femmes. » Les forces de police peuvent même être les premières à brutaliser les femmes dans la rue ou dans les manifestations pacifiques. Les forces de l'ordre, tout comme la justice, ne sont pas des organes neutres au-dessus des rapports de domination. Elles y participent. Le système judiciaire indien échoue ainsi à rendre justice aux femmes et témoigne trop souvent d'une forme de complicité des autorités avec les auteurs de violences sexistes.
Depuis 2014, le président Narendra Modi promet l'égalité des genres et la protection des femmes. Or, ces mesures servent avant tout ses objectifs politiques, et la grande cause de son mandat ne semble avoir été qu'un mantra répété à des fins électorales. Car le Premier ministre est un nationaliste hindou. Il prône une Inde nouvelle, mais basée sur un programme civilisationnel, appuyé sur des normes de genre régressives et sur un modèle traditionnel patriarcal. Il met donc en avant une identité féminine hindoue respectable, censée incarner la moralité, la pureté de la famille et de la nation, tout en mettant en garde contre la dépravation des mœurs, la décadence venue d'Occident et le danger que représente la religion musulmane. Il suffit qu'une femme veuille ou soit accusée de vouloir s'affranchir de ses préceptes pour que la violence qu'elle subit soit justifiée, acceptable, voire inévitable. Le régime autoritaire de Narendra Modi s'apparente en fait à l'extrême droite et instrumentalise la cause féministe, à l'image du néofascisme européen de Giorgia Meloni en Italie. D'ailleurs, dans le nouveau code pénal que Narendra Modi promulgue en juillet dernier, le viol conjugal est toujours autorisé, à condition que la femme ait plus de 18 ans. Sans surprise, les violences faites aux femmes continuent de croître, et leur assujettissement aux hommes ne semble guère s'amenuiser. Le taux de femmes considérées dans la population active en Inde, c'est-à-dire ayant un travail hors de la sphère domestique, est tombé de 30% dans les années 90 à 17% en 2018. Si ce taux remonte depuis quelques années, il faut davantage y voir un signe de grave crise économique qui pousse les jeunes femmes à accepter des boulots mal payés, aux conditions pénibles, qu'elles quitteront sitôt la situation économique améliorée. Ce phénomène souligne d'ailleurs le rôle d'amortisseur joué par un certain nombre de femmes dans le pays, qui sont sociologiquement celles qui subissent le plus les difficultés financières et la charge de travail, car ce n'est pas parce qu'elles vont travailler qu'elles cessent de s'occuper de la maison et des enfants.
Doesn't matter if
En ce mois d'août 2024, c'est petit à petit l'ensemble du pays qui se mobilise. Les rues se remplissent d'un flot ininterrompu. Écrise et Indian Express. Médecins et étudiantes en médecine occupent le hall du Ames, le plus grand hôpital de Delhi, et la plupart des espaces de soins sont en ébullition. À la veille du 15 août, jour anniversaire de l'indépendance indienne, les groupes féministes lancent un appel pour convier toutes les femmes, les queers, les trans, toutes les personnes issues de minorités de genre marginalisées, à une marche Reclaim the Night, reconquérir la nuit. Les féministes s'inscrivent ainsi dans le mouvement international né à Leeds, au Royaume-Uni en 1977, par lequel les minorités de genre revendiquent leur droit à la nuit et aux espaces dans lesquels elles ont été surveillées, limitées ou violentées. Elles préviennent que la présence des politiciens et des partis politiques n'est pas souhaitée. Ce qui devait n'être qu'un rassemblement dans trois points de Kolkata se répond comme une traînée de poudre et presque spontanément, des marches ont lieu dans une cinquantaine de localités de l'état du Bengale et dans les autres grandes villes du pays, Bengaluru, Delhi, Mumbai, etc. À Kolkata, c'est une déferlante. Partout, les indiennes sortent à 23h et demeurent dans les rues une partie de la nuit, parfois jusqu'au petit matin, en brandissant des bougies pour rendre hommage à Mumita. Elles sont rejointes dans cette initiative par des féministes du monde entier, comme à Atlanta, où une marche solidaire avec les indiennes est organisée. D'un coup, on passe de la dénonciation d'un crime horrible à la question de la sécurité des femmes et des personnes trans dans l'espace public. La question de l'oppression systémique est mise sur la table, et avec elle, la considération que nulle part, à aucun moment, il n'est anodin d'appartenir à une minorité de genre. Anindita partage au journal en ligne Féminisme in India.
La nuit dernière était vraiment spéciale. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu marcher dans les rues jusqu'à tard dans la nuit sans avoir peur. À certains moments, je vivais un rêve euphorique. J'ai senti que la révolution n'était pas seulement possible, mais qu'elle était imminente.
Les manifestantes se rendent à nouveau à l'hôpital de Kolkata en brandissant des pancartes demandant par exemple qu'on cesse de parler d'harcèlement, car ce qui se passe ici, c'est du terrorisme sexuel. Elles chantent « Meyera jado kol koro »« Les filles, prenez le contrôle de la nuit ». Tanushree Das est présente avec sa fille.
Je pense que la nuit n'est pas réservée au seul plaisir des hommes. Nous sommes là pour affirmer notre droit à la nuit et pour que les femmes n'aient jamais à ressentir que la nuit leur fait peur.
Travailler à rendre sereine et habituelle la présence des femmes dans l'espace public, c'est aussi le projet de Nana Singh. À Mumbai, elle a lancé le mouvement Why Lawyer? Pourquoi traîner? Il consiste simplement à organiser des sorties, à être dehors en groupe, à chanter dans le métro ou à explorer des endroits jugés inappropriés pour les minorités de genre. Elle confie à Brut.
Les femmes doivent toujours justifier leur présence dans l'espace public. Il faut que plus de femmes sortent pour ne rien faire. Vraiment rien. C'est la seule façon d'imposer l'idée que c'est normal de voir des femmes dehors qui ne font rien. On organise des sorties nocturnes où on sort à minuit et on se promène jusqu'à 3h ou 4h du matin. On dort dans les parcs, on fait du vélo. Ce n'est pas qu'un problème de sécurité, c'est une question d'égalité des droits.
Le 17 août, l'association des médecins indiennes monte d'un cran en annonçant une grève nationale de 24 heures pour exiger de meilleures conditions de travail, considérant qu'elles sont une cause directe du crime perpétré à Kolkata. 1 million de soignantes et de soignants répondent à l'appel. L'effervescence est à son comble. Toutes les nuits, des rassemblements Reclaim the Night entretiennent les hommages et la colère. Le 18, le bâtiment administratif de l'hôpital de Kolkata est à nouveau envahi, ce qui pousse la police à interdire le soir même tout rassemblement à proximité du complexe hospitalier. Mais c'est au stade que cette nuit-là, les chants résonnent le plus fort. Les clubs de supporters de foot rejoignent en effet la lutte. Les deux clubs rivaux font annuler la rencontre qui doit les opposer, sont rejoints par les supporters des autres clubs de la ville, et le parvis du stade se transforme en un gigantesque rassemblement contre les violences faites aux femmes. On scande « Nous sommes avec les médecins, nous voulons la justice !» La police tente en vain de disperser le rassemblement et le président de la Fédération indienne de football intervient personnellement pour faire libérer les personnes arrêtées. En ce dimanche, le monde des arts s'est donné rendez-vous pour rendre hommage à l'infirmière. Dans toute la ville, les rues se remplissent de spectacles et de concerts et les rassemblements durent encore toute la nuit. Sharad Agrawal, président de l'Indian Medical Association, déclare en marge d'un rassemblement
« Nous pleurons tous les crimes, mais celui-ci a attiré l'attention des médias. Nous demandons au gouvernement central de prendre des mesures pour la sécurité des professionnels de santé, mais aussi pour la société tout entière. Les États indiens appliquent rarement la loi comme ils le devraient, alors que les coupables devraient être punis sévèrement. »
Au cours de la semaine, la Cour suprême ordonne la reprise du travail à la fin de la grève. Elle annonce en même temps la mise en place d'un groupe de travail composé de médecins pour améliorer la sécurité du personnel médical. Malgré l'injonction de la plus haute instance du pays, l'association des internes de l'hôpital de Delhi et les syndicats de l'hôpital de Kolkata annoncent la poursuite de la grève le mardi 20 août, qui entre donc dans son 11e jour. Les manifestations s'en prennent alors à l'état du Bengale et réclament la démission du gouvernement provincial, accusé de ne pas faire assez contre les violences faites aux femmes. Sous la pression, celui-ci accède aux demandes de mesures d'urgence réclamées par le mouvement des femmes. Mise en place de salles de repos non mixtes, équipées de toilettes dans les hôpitaux, et création d'une application téléphone d'alarme reliée au poste de police. Il voulait également mettre en place des patrouilles de police dans les hôpitaux, proposition rejetée par les syndicats et les femmes en lutte. Le gouvernement financera finalement des patrouilles de nuit autogérées par le personnel médical. Legado 300, 808 pe murder of MC running. Better believe ye mera throne axe is coming. Kisi ke underneath isliye main underrated. Main khud khushi se khud ki khushi tak, middle class se khud ki sushi tak, show ki bheek se groupie tak, dekha sab independent what the fuck. Kyunki zid bagavati hai meri zid, cut chota think big legendary shit. Mange ni paise third year mein kari do jobs, sikhaya hi ni karna crib in my crib. C'est alors qu'à l'extrême sud du pays, un autre événement va provoquer la colère. Le 19 août, un rapport est publié sur le harcèlement et les agressions sexuelles subies par les femmes travaillant dans le complexe cinématographique de Mollywood, dans l'état du Kerala. Il fait état, selon le journal News Laundry, d'un harcèlement sexuel endémique, de conditions de travail exécrables et de l'inefficacité des mécanismes de correction et des solutions offertes aux femmes. Devika, universitaire et féministe du Kerala, s'exclame.
Il ne s'agit pas d'un simple compte-rendu de la violence sexuelle. C'est la révélation des rapports de domination dans l'industrie du cinéma et tout le panel des autres violences. La discrimination, l'exploitation, l'inégalité salariale.
En 2017, c'est déjà à Mollywood qu'une actrice brise l'omerta lorsqu'elle dénonce un célèbre producteur pour avoir orchestré le viol collectif qu'elle a subi. De nombreuses femmes se solidarisent à ses côtés. Elles réalisent ensemble que toutes sont des survivantes à la violence patriarcale systémique du cinéma Mollywood. Un groupe de 40 femmes soumet alors au Premier ministre du Kerala un mémorandum contenant une série de mesures à mettre en place d'urgence. Réduction de l'écart de salaire entre hommes et femmes, espace de travail sécurisant, protocole de réparation. Elles forment ainsi le Women in Cinema Collective. Rima Kalingal, l'une des fondatrices, explique.
Comme dans beaucoup d'autres industries, les actrices ne gagnent pas la même chose que les hommes. Les débutantes travaillent sans contrat et ont souvent du mal à se faire payer. La quête d'audience par les producteurs fait que les rôles féminins sont des femmes objets qui mettent en valeur des personnages masculins. Sans importance économique et reléguées à des rôles moindres, les actrices n'ont aucun levier pour faire entendre leurs revendications. Lyrical rhymes made a cynical minds killing me. Clinical flow, stereotypical grind, yeah, honey. 9 to 5, kari 20 mein aur chori 21 mein. Main bhi boss, wo bhi boss, maine keh ke le li. Thay mere fans aur hip hop, jab kuch raha na. Married to the game, 5 saal, ye mera gharana. Now they call me mama.
C'est de la mobilisation du Women in Cinema Collective que naît la commission HEMA, créée par l'État du Kerala. C'est elle qui rédige le rapport à partir de 2017. Un immense espoir émerge alors pour les actrices indiennes, alors que Bollywood, l'autre grande industrie du film indien, est en pleine vague MeToo. En 2019, quand le rapport lui est remis, le Premier ministre du Kerala refuse de le publier, malgré les demandes répétées des féministes et des journalistes. Ce n'est donc que 5 ans plus tard qu'il est publié dans son intégralité. Ces 200 pages contiennent des dizaines de témoignages d'actrices et de travailleuses du cinéma. Si aucun nom n'y figure, le rapport décrit un groupe d'hommes puissants, surnommé la mafia, qui domine l'ensemble de l'industrie, impose ses règles et ses pulsions et réduit les femmes au silence. Celles-ci témoignent craindre pour leur vie, au moment de témoigner. Dans la foulée, d'autres actrices racontent oppression et agression dans la presse ou sur Facebook, et l'ampleur du système choque le pays, déjà secoué par le crime de Kolkata. Le secrétaire général de l'Association du cinéma de Mollywood exprime sa sidération, remercie le rapport de faire la lumière sur la situation et clame que la police doit arrêter toutes les personnes mises en cause dans les recherches de la commission HEMA. Quelques heures plus tard, l'actrice Riti Samat rappelle qu'elle l'accuse d'attaque sexuelle depuis 2019 sans que la police n'a cru bon d'intervenir. Sur les réseaux, la pression monte et le secrétaire général est forcé de démissionner en quelques jours avant de porter plainte contre Riti Samat et de dénoncer une conspiration pour le faire tomber. Les accusations nominales se succèdent, ainsi que les démissions, à commencer par l'ensemble du comité exécutif du syndicat des artistes du cinéma Mollywood. Le gouvernement du Kerala annonce quant à lui créer une cellule spéciale de la police pour enquêter rapidement sur toutes les allégations de violences sexuelles révélées grâce à la sortie du rapport. Wow. Jab main bolu hip mujhe sunna chahiye hop, main jiyun for the scene, rag rag mein mere kya hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Jab main bolu hip mujhe sunna chahiye hop, main jiyun for the scene, rag rag mein mere kya hip hop. 27 août, des milliers de personnes marchent encore à Kolkata et convergent vers des bâtiments administratifs pour exiger la démission de Mamata Banerjee, ministre de la Santé et de l'Intérieur de la province du Bengale. De nombreuses écoles et entreprises ont fermé leurs portes, anticipant une grève informelle et le blocage des routes à travers la ville. Gaz lacrymogène et coups de matraque pleuvent sur le cortège. Près de 250 personnes sont arrêtées. En riposte, étudiants et étudiantes érigent le lendemain des barricades dans les rues et sur les voies de chemin de fer. Des bagarres éclatent entre les partisans du gouvernement provincial et leurs rivaux du BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi. Les partis politiques se battant pour le pouvoir ne parviennent cependant pas à éclipser la manifestation de médecins qui se déroule par la suite, ni les nouvelles marches Reclaim the Night dans lesquelles les politiciens sont bannis. Ainsi, le 4 et le 8 septembre, le Bengale se mobilise encore massivement pour prolonger le mouvement d'occupation nocturne des rues. Les femmes brandissent des conques, symboles de résistance, et soufflent bruyamment dedans pour affirmer leur droit à exister. Le combat sans relâche des féministes indiennes remporte des victoires, pas à pas. Les initiatives qui cherchent à développer l'autodéfense, l'émancipation et la libération des femmes et des minorités de genre sont innombrables, dans tous les domaines. Du côté de Mumbai, c'est dans la scène hip-hop que l'on retrouve cette même détermination. Kranti Nahari, membre du groupe Wild Wild Women, s'exclame dans une interview.
Pourquoi cherche-t-on à réfréner notre colère et notre franc-parler? Pourquoi ne devrait-on pas être enragé? C'est pourtant nécessaire. Être née femme dans ce pays, c'est une révolution en soi. Il y a tellement d'injustices et de culture du viol que les femmes ne peuvent pas survivre si elles ne ripostent pas.
C'était le dernier épisode de l'année, merci de nous avoir suivis. Au doublage, Lola, Oriane et Pierre. En termes de musique, vous avez pu écouter les rappeuses indiennes Meba Ophelia avec The Journey, Shady avec Suffragette, Axie avec Hip Hop et le groupe Wild Wild Women avec la chanson éponyme. Quant à nous, on se retrouve en 2025 en espérant qu'elle soit riche de luttes et de couleurs. Prenez soin de vous et belle fin d'année.
படும் எல்லா பாவம் இங்கே உன்னோட வெற்றி நண்பன் குடுக்கற சாபம் இங்கே வழி வீடு வரோ பாரு வெறியோட புது புதிய ஸ்டைல் இசை அட்டம் கல்லையோட
கண் நாகே சூப்பு திருஷ்டி மனசனகே தும்பித பிரீத்தி அனுகிரக ஹாகே ஆகிருதி மாடுத்தனி கஷ்ட ஜகத்தின சுத்து பெட்டி நான் ஹுட்டி கொடுத்தனி தொகுத்தினி சமாஜதின புத்தி ஆகாஷ்னக ஹார கதறி இந்த குரு சாஸ்தவா பெரு மாத்தில நிர்பிதா நின்னு பேற்றி ஆக்கி தெந்த
வீட்டுல இருக்குது சம்ம வெயிட்டே கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நம்பி பாருனோட ரூட்டே உரையாதரோ இப்ப நம்ம பேர கேட்டே ஃபால் ஃபால் ஃபுல்மே நான் திஸ் இஸ் ஹவ் வி டு இட் கோலே கோமே சீர் ஃபார் ஐசி பாதே பினாரு காவடி அஸ்மான் சூதி ராஸ்தே ஃபால் ஃபால் ஃபுல்மே நாம் சே ஹமே ஜான்டே ஃபால் ஃபால் ஃபுல்மே நாம் சே ஹமே ஜான்டே கோலே கோமே சீர் ஃபார் ஐசி பாதே பினாரு காவடி அஸ்மான் சூதி ராஸ்தே ஃபால் ஃபால் ஃபுல்மே நாம் சே ஹமே ஜான்டே ஃபால் ஃபால் ஃபுல்மே நாம் சே ஹமே ஜான்டே கோலே